Moi, je vais faire la présentation en français. Donc, notre sujet, c'est la vaccination antipneumocoque chez les malades BPCO. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'il y a une indication et chez qui la pratiquer? L'infection à pneumocoque donc, est une cause de mortalité et morbidité à travers tous les groupes d'âge dans le monde entier. L'infection à pneumocoque, donc, elle peut causer plusieurs types d'infections, des pneumonies, des infections invasives, quand on trouve une bactériémie dans le sang ou bien une méningite, ou bien elle peut causer des infections non invasives comme la pneumonie communautaire ou bien l'otite. L'incidence de la pneumonie à pneumocoque, donc, elle est autour de 15 à 30 par 100 000 habitants par an dans les pays développés. Aux États-Unis, on estime l'hospitalisation pour une pneumonie autour de 11 cas pour 1000 personnes dans la population générale qui sont plus que 65 ans. Et on estime que chez les malades BPCO, à peu près 41 cas par 1000 patients par an. On connaît tous que le pneumocoque, c'est la cause d'infection la plus fréquente qui peut causer une pneumonie communautaire. L'évolution de la BPCO, donc, elle est marquée au cours l'évolution d'un malade BPCO est marquée par des épisodes d'exacerbation. On sait que 50% de ces exacerbations sont dues à une infection bactérienne. On sait aussi que le malade qui est BPCO, qui est colonisé par le pneumocoque, il a un risque plus élevé de faire une exacerbation à BPCO. Plusieurs stratégies ont été mises en route pour diminuer ces risques d'exacerbation et les risques d'incidence de pneumonie chez les malades COPD. Donc, on sait que l'immunisation contre l'influenza et l'immunisation contre le pneumocoque, en plus des autres stratégies pratiquées comme l'arrêt du tabac, l'utilisation de médicaments bronchodilatateurs inhalés ou corticoïdes inhalés, toutes ces stratégies sont utilisées pour diminuer le risque d'exacerbation et les incidences de pneumonie. Depuis l'ère de la vaccination chez les enfants par le vaccin conjugué, on estime que l'incidence de la pneumonie dans le monde entier elle a diminué. Mais on ne sait pas si c'est vrai en ce qui concerne les malades qui ont des pathologies respiratoires chroniques. Il y a une étude qui a été menée par Kimberly, donc c'était une étude rétrospective, une cohorte étude menée entre 2006 et 2010 pour évaluer le rate de pneumonie et le rate de pneumonie à pneumocoque ou bien de pathologies infectieuses invasives chez les malades qui ont des facteurs de risque. Cette étude, elle a été faite chez plusieurs types, catégories de patients. Il y avait des sujets sains, un groupe de patients qui étaient à risque, donc qui avaient des comorbidités, et la majorité avait une seule comorbidité. On voit dans ce groupe de patients à risque, donc il existe les patients tabagiques, les patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques et les asthmatiques. Et le troisième groupe, c'était des malades qui avaient un risque élevé d'attraper la pneumonie à pneumocoque, par exemple pour les malades qui ont une insuffisance rénale ou bien qui ont des implants cochléaires ou bien splénectomisés ou qui sont immunodéprimés. Donc, les différents groupes, il y avait plusieurs groupes d'âge, donc des sujets jeunes, des sujets moyen âge et des sujets âgés. Quels ont été les résultats? Est-ce que chez les malades pulmonaires chroniques, il y a un plus risque d'avoir la pneumonie, toute cause de pneumonie? Donc, on remarque dans ce tableau que les malades qui ont des pathologies respiratoires chroniques, ils ont le risque est trois fois plus élevé, ça arrive jusqu'à huit fois le rate plus élevé que chez les sujets sains. En plus, le tabagisme, il est à lui seul un facteur qui augmente l'incidence de la pneumonie. Donc, on remarque que chez les malades tabagiques, donc le taux il est trois fois plus que chez les sujets sains de faire une pneumonie. Donc, de même, en ce qui concerne les pneumonies à pneumocoque ou bien les pathologies invasives, on remarque aussi que chez les malades ayant une pathologie respiratoire chronique, donc le rate est plus élevé que chez les sujets sains. De même, le tabagisme à lui seul donc, est un risque d'attraper une pneumonie à pneumocoque ou bien d'avoir une infection invasive à pneumocoque. COPD, donc, on connaît que la COPD est une cause de morbidité élevée pour attraper une pneumonie, mais elle n'a pas été reconnue comme un diagnostic distinct pour un risque de mortalité. mais Restrepo, donc, il a fait une étude chez des malades COPD, donc, qui avaient une pathologie respiratoire seulement COPD, et qui a été publiée dans l'European Respiratory Journal, pour voir est-ce que les malades BPCO qui font une pneumonie et sont à plus risque de mortalité que les autres malades. Donc, et dans cette étude, on remarque que les patients BPCO, ils ont une indication d'être hospitalisés aux soins intensifs plus élevée que chez les malades non COPD. En plus, on a remarqué que l'hospitalisation est plus prolongée et la sévérité de la pneumonie est plus importante. Si on regarde la courbe de mortalité chez les patients BPCO, donc que ça, à travers le temps, on remarque que le risque de mortalité à 30 jours et à 90 jours, il est plus important que chez les malades non COPD. Donc, puisque on a l'incidence de pneumonie à pneumocoque et l'incidence de pneumonie invasive, de pathologie invasive est plus importante que chez les malades BPCO ou bien tabagiques, et le risque de mortalité est plus élevé, donc on a une indication à vacciner ce type de malade. Quels sont les types de vaccins dont on dispose? Donc on sait que le pneumocoque, il est entouré par une capsule, donc par une capsule qui contient des antigènes polysaccharidiques, et il y a plusieurs types d'antigènes polysaccharidiques, et selon ces antigènes, on peut distinguer différents sérotypes. On sait qu'il y a à peu près 90 sérotypes. Les vaccins dont on dispose, il y a deux types de vaccins, le vaccin saccharidique et le vaccin conjugué. Donc le premier vaccin polysaccharidique, il a été licencié en 1983 et il agit sur 23 sérotypes différents qu'on considère qui sont les plus responsables des pneumonies communautaires. Le deuxième vaccin, donc, puisque le premier vaccin il avait une immunogénicité faible et il n'était pas très efficace chez les enfants moins que 2 ans, donc on a créé le deuxième vaccin conjugué. Donc il est conjugué à une protéine, donc ça, il est plus immunogène donc on va voir ses caractéristiques. Le premier, c'était le PCV7, donc qui agit contre 7 sérotypes, qui a été libéré en l'an 2000. Donc, on a remarqué qu'il y a eu un phénomène de remplacement sérotype. Donc, on a mis en route le PCV10 et après, donc, on a créé le PCV13, donc, qui agit contre 13 sérotypes différents. Actuellement, on est en train de faire des expériences sur le PCV15, donc, qui couvre plus de sérotypes pour lutter contre les pneumonies. Donc, ces deux types de vaccins ne sont pas leur immunogénicité n'est pas très importante. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur un troisième type, donc qui agit sur des protéines de la capsule du pneumocoque, et on pense qu'ils peuvent atteindre toutes les souches de pneumocoque. Donc, mais c'est toujours expérimental. Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux types de vaccins? Le vaccin polysaccharidique, donc, il agit en stimulant l'immunité humorale. Donc, sa réaction est indépendante des lymphocytes. On va avoir une phagocytose et la libération des anticorps, mais sans réaction mémoire. Et avec le temps, donc, on va avoir une chute des anticorps. Et après un certain temps, 5 à 10 ans, donc, il n'y aura plus d'anticorps et il faut refaire une deuxième vaccination. Par contre, le vaccin conjugué, il agit par l'intermédiaire des lymphocytes. Donc, on va avoir une immunité humorale, donc une mémoire. Et donc, on n'a pas besoin de revacciner les patients. Est-ce que ces vaccins sont efficaces? La recommandation des pour vacciner les patients BPCO, donc, elle est basée sur l'efficacité du vaccin polysaccharidique dans la population générale. Donc, une Cochrane review qui a été faite qui a montré que le vaccin polysaccharidique, il peut donner une efficacité de 74% pour prévenir les infections invasives à pneumocoque avec une effectiveness 52%. Donc, on dispose de peu de données about efficacité et efficacité du vaccin saccharidique chez les malades BPCO. Donc, on a peu d'études randomisées contrôlées. De même, Walter, en 2010, il a fait une revue Cochrane, donc et il n'a pas trouvé une efficacité de ce vaccin chez les malades BPCO. Par contre, il y a une étude donc, qui a été publiée dans le thorax en 2006, qui a été faite par AlphaGem, donc, et qui a, c'était une étude randomisée, contrôlée, sur un groupe de malades qui est assez important, donc, qui a comparé est-ce qu'il y a un risque de pneumonie plus élevé chez les malades qui ne sont pas vaccinés que chez des malades vaccinés. Donc, et on voit dans ce tableau donc, les groupes de malades BPCO, il y avait des sujets moins que 65 ans et des sujets plus que 65 ans. Et 56% des patients avaient une COPD non sévère contre 44% des patients, donc ils étaient sévères. Quels ont été les résultats? Donc, en ce qui concerne toute cause de pneumonie chez tous les patients, donc l'efficacité était de 24%. Mais si on prend un sous-groupe de patients inférieur à 65 ans, on remarque que l'efficacité augmente jusqu'à 76%. Et si on prend aussi chez les malades qui ont une obstruction sévère, un FEV1 qui est inférieur à 40%, donc l'efficacité elle remonte jusqu'à, elle est autour de 48%. Et si on mélange ces deux critères, donc l'âge qui est inférieur à 65 ans, donc et avec une obstruction sévère, l'efficacité peut arriver jusqu'à 91%. Donc, si on regarde le tableau ici, donc si on mélange les deux variables, l'âge et sévérité de l'obstruction, donc on remarque que les malades vaccinés ont 5 fois moins de risque de faire des pneumonies à pneumocoque. Donc, puisque le vaccin polysaccharidique n'est pas très efficace pour stimuler une immunogénicité, chez les malades BPCO, est-ce que le vaccin conjugué est plus important? Donc, le vaccin conjugué PCV-13, donc, il a été licencié en 2010 et il a été approuvé par le FDA pour la prévention des pathologies invasives à pneumocoque et les otites chez les enfants. Donc, à partir des résultats chez les enfants, on a décidé de le donner chez les sujets adultes. L'ACIP, donc, qui est l'Advisory Community Immunization Practices, donc, elle s'est basée sur une étude CAPITA pour donner ce vaccin chez les sujets âgés, qui a montré une efficacité autour de 75% contre les pneumonies invasives, contre les infections invasives, et un résultat de 46% contre les pneumonies non bactériennes. Mais on ne dispose pas de résultats chez les malades BPCO. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études concernant le PCV-13 chez les malades uniquement BPCO, est-ce qu'il est efficace ou pas. Par contre, récemment, il a été publié une étude faite en Espagne chez des patients plus que 50 ans donc, et qui sont COPD. Et donc, la vaccination par PCV-13 donc, a montré un rapport cost-effectiveness qui est important. Donc, vu toutes ces données, quelles sont actuellement les recommandations pour vacciner un malade BPCO? Chez les malades BPCO qui ont des conditions d'immunosuppression, on recommande de donner une vaccination double, c'est-à-dire par le PPV23 avec le PCV13. Donc, les recommandations, ils vont être... c'est Dr Céline Baalini qui va en parler plus largement. Et chez les malades donc, BPCO qui ne sont pas à risque, qui ont seulement une comorbidité comme BPCO, donc on recommande une vaccination par le vaccin polysaccharidique PPV23 et une revaccination 5 à 10 ans plus tard, donc si la première vaccination a été faite avant 65 ans. Donc, en conclusion, les malades BPCO, donc, ils sont à grand risque d'avoir des infections invasives et non-invasives à pneumocoque. Donc, les patients BPCO, ils sont à risque de mortalité élevée quand ils ont une pneumonie communautaire. La vaccination, elle est recommandée chez ce malade, donc il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent une efficacité, mais il y a quelques études qui montrent une réponse qui est bonne chez les malades BPCO sévères qui ont moins de 65 ans. Mais vu que le vaccin, donc, il n'a pas beaucoup d'effets indésirables, on peut vacciner ces gens. Actuellement, on dispose de deux types de vaccins, le vaccin polysaccharidique et le vaccin conjugué, mais les deux types de vaccins, les résultats ne sont pas optimaux. Il y a une nouvelle génération donc, qui se base sur, donc, sur les protein-based pneumococcal vaccine, donc qui va agir contre les protéines de la capsule du pneumocoque, et on espère que ça va être le futur pour une meilleure protection des malades. Merci.